Bonjour Fatima.
Bonjour Vincent, merci de m'accueillir dans vos studios.
C'est normal, ça nous intéresse, c'est ce qui fait la particularité de cette radio, on s'intéresse un peu à tout. Alors, qu'est-ce que l'hypnose humaniste? Un vaste sujet, je suppose.
Alors, l'hypnose humaniste, donc, si les personnes s'en souviennent, donc j'avais parlé des différentes formes d'hypnose. Juste pour refaire un petit rappel, hein, donc il y a l'hypnose classique, où en fait, là, c'est le thérapeute qui fait des suggestions. Il y a donc un langage direct, hein. Et donc l'hypnose classique, c'est ce qui a été utilisé déjà dès le 19e siècle, hein, au départ, pour le milieu psychiatrique. Enfin, c'est comme ça que cette forme a pris son envol. Moi, aujourd'hui, je viens vous parler de l'hypnose humaniste. L'hypnose humaniste, donc toujours à l'Institut français d'hypnose humaniste ericksonienne à Paris, dont le cofondateur, les cofondateurs Olivier Lockhart et Patricia D'Angeli Lockhart. L'hypnose humaniste, on est toujours donc en état de conscience modifiée. La différence avec l'hypnose ericksonienne, en deux mots, enfin je vais essayer, l'hypnose ericksonienne, en fait, c'est une hypnose dissociante. On va donc séparer le conscient de l'inconscient ou le corps de l'esprit. Ok. Donc là, la personne, en fait, est inconsciente, puisque c'est le thérapeute qui suggère, qui fait, qui dit. Okay. L'hypnose humaniste est tout l'inverse. Là, on va reconnecter, re-associer. Donc c'est l'hypnose associante. On va reconnecter la personne à elle-même. Donc, elle va être en pleine conscience, en état de conscience augmentée. Donc là, on va travailler avec le conscient, l'inconscient, par le biais de la conscience. Vous voyez, ni l'un ni l'autre n'est viré. Au contraire, on travaille avec le tout.
On rejoint le corps et l'esprit, ou ça n'a rien à voir?
C'est ça. Là, on rejoint, voilà, hein, puisqu'on reconnecte, hein, la personne en elle-même, et on va travailler avec le conscient qu'on avait viré, enfin qu'on vire dans l'ericksonien. Et on travaille donc avec le conscient, l'inconscient, par le biais de la conscience, son environnement. On travaille donc, du coup, c'est de la symbolique. Et donc, en fait, voilà, la personne, elle est complètement connectée à elle-même. Et donc, c'est elle qui va travailler. C'est elle qui travaille, puisqu'on va travailler en symbole. Le thérapeute va guider, l'accompagner son symbole, selon son mal-être, ben, comment il est, sous quelle forme. Donc, c'est elle qui ressent. En fait, en hypnose humaniste, on entend, on ressent, on sent les choses complètement. Et après, on décide de ce qu'on en fait. Et c'est la personne qui fait, pas le thérapeute. Et par exemple, dans une séance en humaniste, on discute tout le temps. Et on débrief à la fin ce qu'on ne fait pas en ericksonien.
Comment se passe une séance? Peut-être on va trop vite là, dans le cheminement.
Non, c'est très important. La séance, donc, elle commence toujours par ce recueil donc, qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse qui va donc me permettre de faire connaissance, de poser un certain nombre de questions, un maximum. La personne répond ou pas. Il y a des personnes, vous posez une question, elle va tout vous donner. D'autres, par exemple, on apprend des choses en cours de séance. Et donc, c'est à partir de cette anamnèse que je vais pouvoir déterminer, par exemple, l'urgence de ce qu'il faudrait faire dans un premier temps et ce qui peut attendre. Donc, je fais toujours le point avec la personne en disant, voilà, moi, je vous suggère qu'on travaille d'abord ceci ou cela. Et c'est toujours la personne qui choisit. C'est toujours la personne qui décide, puisque c'est elle qui vit les choses. C'est elle que je peux, par exemple, proposer un deuil. Et si la personne est venue pour une crise d'angoisse et qui me dit non, parce que moi je sais, c'est pas possible. Oui, le deuil, ok, mais non, ok, on fait la crise d'angoisse. Mais en tout cas, par exemple, elle sait que il y aurait peut-être aussi des deuils à faire. C'est un exemple.
Pas à pas, on peut y arriver avec plusieurs séances, c'est ça, ou juste une séance parfois suffit.
Alors l'hypnose humaniste, comme les autres formes d'hypnose. On peut, j'ai envie de dire, on peut tout faire, à condition, il y a des conditions bien sûr à respecter, enfin moi c'est ce que je pratique comme ça, une fois qu'on a éliminé aussi le côté médical. L'hypnose est complémentaire, elle ne remplace pas. La personne qui a un traitement, elle va continuer à le prendre, d'accord? On ne remplace pas les personnes qui suivent un traitement, qui ont des choses. Les personnes qui ont par exemple certaines douleurs, je ne pratique pas de suite, je vais m'assurer, je vais en tout cas suggérer à la personne, si elle n'a pas vu, si elle n'a pas consulté, hein, d'abord d'aller consulter et ensuite de revenir me voir, puisque en hypnose, quelle que soit l'hypnose, hein, on peut donc aussi réduire les douleurs. Et dans ce cas, on ne le fait pas, puisque s'il y a un problème important, enfin, je ne suis pas médecin, hein, et les hypnoses, genre, on n'est pas médecin, si on réduit la douleur et que la personne, par exemple, consulte après, le diagnostic peut être faussé, hein, puisqu'on a réduit la douleur. Si son, le médecin ou je ne sais qui lui demande, par exemple, le degré de douleur, elle va pas, ça ne va pas être le réel. Donc, on élimine d'abord toujours le côté médical. Ça, c'est incontournable. Crise d'angoisse, les problèmes de sommeil, problèmes sexuels, problèmes relationnels, famille, enfant, travail, enfin, tout ce qui peut être problème relationnel dans notre vie. Les deuils, bien sûr, parce que ça, c'est des choses voilà, des difficiles. J'ai envie de dire, voilà, on peut tout faire. Une fois qu'on a éliminé le côté médical, qu'on s'assure qu'effectivement, on peut donc nous agir.
Alors, vous avez évoqué des prises de médicaments dans le cadre de douleurs physiques, oui. Mais c'est aussi la même chose dans le cas de prises de médicaments qui pourraient, comment dire, modifier, peut-être pas la personnalité, c'est un peu trop lourd, mais la mentalité de la personne. Donc là aussi, il faut que ce soit vraiment un terrain neutre.
Alors, honnêtement, pour l'instant, je n'ai pas eu de personnes qui sont arrivées, si j'ai bien compris, après avoir pris un traitement, vous voulez dire être complètement...
Un peu déphasé par rapport à un traitement.
Ouais. Alors ça, je n'ai pas eu le cas. En général, les gens vous disent, oui, je suis un traitement. D'ailleurs, du fait, vous donnez des noms de médoc, voilà, ou non, je ne prends pas de traitement. Après, les personnes qui sont, à mon avis, dans cet état, déjà, elles ne viennent pas, parce qu'il faut quand même être... Enfin, il faut quand même marcher droit, je pense, je ne sais pas. Mais moi, je parle de traitement pour les douleurs, de traitement quelconque. Moi, par exemple, j'ai accompagné quelqu'un atteint d'un cancer bien avancé, donc des poumons. Il était hors de question qu'il arrête ses séances de chimio ou quoi que ce soit. C'était dans ce sens. Je disais, la personne continue les traitements, continue son suivi médical. C'est après, si vous voulez. C'est quand elle va retrouver ce mieux-être. Et là, évidemment, c'est toujours vers son médecin qu'elle va retourner, puisque lui seul peut faire le diagnostic et peut-être diminuer la dose ou autre. Donc, mais l'hypnose n'est pas incompatible avec les personnes qui prennent des antidépresseurs ou enfin avec certaines limites. Hein. Je vous dis, la personne qui est complètement dans les vapes, elle ne viendra pas me voir. Donc voilà, c'est dans ce sens, voilà, la personne continue son traitement et c'est après.
Il y a des clés qui sont données, donc la personne s'en aperçoit en toute conscience.
Oui, les personnes s'en aperçoivent. Alors pas en sortant, hein, ça je le dis bien aussi, c'est pas de la magie, on fait pas de magie. En général, il faut compter. Ben, après, ça dépend aussi de la réceptivité de chacun, de quelques heures à quelques jours, et on s'en aperçoit forcément. Et quand on s'en aperçoit, parce qu'il est rare, l'entourage s'en aperçoit. Et les gens me le disent. Ah oui, on me dit que. Donc oui.
Dans la vie, dans la pratique de la vie au quotidien, par exemple des tâches journalières, on s'en aperçoit, et puis l'entourage aussi, du coup, finalement.
Eh bien, complètement. Donc, tout va dépendre de ce qu'on travaille. Donc, avec, j'ai envie de dire, l'hypnose humaniste, on travaille donc en symbolique, on va travailler sur les archétypes importants qui sont, par exemple, l'enfant intérieur blessé, qu'on devrait tous faire, même quand ça va bien d'ailleurs, l'enfant intérieur blessé, le critique, le féminin masculin que nous avons tous, hein. Gauche féminin, droit masculin, à rééquilibrer. Et par exemple, quand on a fait ça chez une personne qui est mal, qui a déjà vu un médecin et autres et que ça ne va pas, ben, quand on a déjà fait l'enfant intérieur blessé, quand on a fait le critique, cette petite voix qui... Et les gens, quand je leur dis, ils se retrouvent en disant, vous savez, des fois, on est bien parti là. Et puis, pour que c'est raison, non, ben, on va se retrouver sur une autre route. Et là, on se dit, mais bon sang. Ben oui, c'est lui. Parce que, alors, selon plus les âges, c'est bien intégré et on a du mal à défaire. Et j'ajouterais juste quelque chose de... Par rapport à l'hypnose humaniste, là, par exemple, je reçois des enfants, parce que je fais aussi les enfants. Et donc là, eux, c'est du bonheur. Parce que justement, les enfants n'intellectualisent pas. Ils sont déjà dans cet imaginaire, et ça, c'est du bonheur.
Ils sont plus accessibles ?
ils sont plus vrais, ils sont plus eux encore. Je dirais qu'ils n'ont pas encore ce truc, vous savez. Ben oui, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on devient adulte, on rentre comme ça un petit peu dans...
Dans des protocoles, peut-être.
Voilà. Alors que les enfants, ils sont encore un peu dans ce monde de rêve, ce monde magique.
C'est intéressant ce que vous disiez il y a quelques instants. On n'est pas obligé d'attendre d'être mal ou vraiment mal pour vous consulter. On peut faire ça dans une démarche de connaissance personnelle, de connaissance de soi, en fait.
Personnelle, tout à fait, idéalement. Mais j'ai envie de dire, le médecin, c'est pareil. Il y a des gens qui vont au moindre petit truc, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Et puis d'autres qui vont attendre d'être complètement... Voilà, faudra arriver à trouver un juste milieu. Mais oui, quand on peut... En tout cas, si vous voulez, notre corps, de toute façon, et les gens vont se reconnaître parce qu'on est tous pareils, notre corps nous donne des signaux, toujours. Après, on est attentif ou pas. Alors, il nous donne le signal une fois, on peut laisser passer. Mais enfin, quand on arrive à 2, 3, 4 fois... Peut-être que après tout le monde n'est pas réceptif, mais idéalement oui. Quand il y a des petites choses en plus qui reviennent, on pourrait se poser la question. Alors après, c'est aussi peut-être l'orientation qui est allée voir.
Donc c'est une expérience à vivre pour ce qui est des séances et au cas par cas. Là aussi, une séance parfois peut suffire ou plusieurs.
J'ai envie de dire effectivement, parfois une séance peut suffire, ce qui est quand même rare. Alors sauf si on vient effectivement vraiment comme ça pour son développement personnel. A priori, là, effectivement, je pense que 2, 3 séances, ça peut aller. Ça m'est déjà arrivé, une personne pour un arrêt de tabac, voilà. Et je voudrais surtout en profiter du coup pour passer le message. Effectivement, après, les gens en parlent, c'est normal. Donc, cette personne, elle, c'était deux séances pour son arrêt de tabac. Et j'avais fait l'enfant intérieur parce que j'avais vu dans l'anamnèse, voilà. Et puis lui-même, ça l'avait interpellé, parce que les effets me disaient, ah oui, mais l'enfant intérieur, ok. Et puis, en fait, du coup, il m'a orienté 2 personnes pour l'arrêt tabac. Sauf que c'est pas du tout les mêmes personnes, pas le même vécu. Enfin, et j'aimerais dire aux gens, on peut pas comparer, en fait, la situation d'une autre personne à la nôtre. Et je sais pas si l'exemple va être bon. Je veux dire que c'est comme si on allait voir le médecin, notre médecin, en disant, là, je viens vous voir parce que ma sœur, mon amie, à peu près la même chose que moi, et vous lui avez donné tel traitement, et ça va bien. Je pense que ce médecin, il ne va pas donner le même traitement à cette personne sans poser des questions, sans savoir. Et bien, l'hypnose, c'est exactement la même chose. Vous pouvez avoir votre sœur, votre amie, je ne sais pas, qui a fait un arrêt tabac en 2 séances ou 3 séances. Pour autant, ça ne se passera pas forcément pareil pour vous.
C'est exactement le même schéma, le même cas de figure. Comme c'est vrai, on a souvent l'habitude de conseiller « Ah, mon médecin, mon dentiste ou que sais-je, il est super, va le voir. »
C'est vraiment au cas par cas parce qu'on n'a pas tous encodé, je veux dire, ce qu'on a vécu, notre enfance, etc., de la même manière. Donc du coup, on ne peut pas appliquer le même traitement. Et l'hypnose, c'est exactement la même chose. Après, les personnes peuvent être curieuses. Elles peuvent toujours dire que l'ami ou la sœur, effectivement, elle est venue pour ça et elle a eu ça. Mais on va toujours faire par rapport à la personne, à son vécu. Comment elle a vécu les choses, en fait.
Vous avez des retours parfois plutôt positif.
Oui, j'ai des retours positifs, dont une petite jeune, 21 ans. J'avais pas de nouvelles parce qu'on avait terminé en novembre. Et donc j'ai eu un texto là en janvier en me disant que tout allait bien. Et c'était une jeune fille qui avait vu psychologue et psychiatre. Là aussi, j'aimerais beaucoup travailler avec ce corps de métier aussi parce que je pense qu'on est complémentaires. Et donc tout va bien, alors que quand je l'ai eu, c'était en gros la vie bof, les adultes bof, bon à 21 ans voilà, on vit de rien, etc. Et donc en fait elle va reprendre ses études, elle fait des saisons, là elle travaille en saison et elle a un petit copain.
Vous parliez là de collaborer effectivement avec d'autres corps de métier, est-ce qu'en France on est un peu plus fermé à ce niveau-là? Il y a d'autres pays peut-être qui utilisent l'hypnose humaniste et qui sont un peu plus en avance.
Je pense qu'ils sont, en tout cas moi je le sens, ils sont plus réservés certainement. Alors les raisons, je ne les connais pas. Hein. Je pense que moi ce que j'aimerais, c'est que ceux qui le souhaitent, que je leur explique, que j'explique en tout cas en quoi consiste ma fonction d'hypnothérapeute, l'hypnose humaniste, comment je travaille, dans quel cas je peux intervenir, et au moins donner les informations en tout cas. Mais je pense, oui, vraiment, on est complémentaires.
Il faut que les mentalités puissent évoluer.
Ah mais complètement, complètement. D'autant plus que, par exemple, l'hypnose, on peut l'utiliser aussi. Alors, c'est vrai qu'elle se pratique beaucoup dans les grandes villes, mais ça veut dire quoi que nous, il faut qu'on attende encore 20 ans parce qu'on est une petite ville. Ben, par exemple, en anesthésie, pour des opérations, pour des choses comme ça. Et en fonction des cas, oui, je crois que c'est un bel outil parce qu'une personne qui a des petits soucis, des fragilités, ben, il n'y a plus d'injection donc de produits anesthésiques. Il y a plus, après, est-ce qu'on privilégie le bien-être du patient, client, ou est-ce que... Et puis l'hypnose, je pense qu'elle fait peur. Elle attire et elle fait peur en même temps, parce que je pense qu'on est encore resté sur des anciens schémas, en fait, à l'hypnose. Si je claque du doigt et je vous endors, et puis voilà, alors que c'est pas ça.
Ce schéma un peu spectaculaire, Houdini et compagnie, alors que ça n'a rien à voir.
Ça n'a absolument rien à voir, et moi j'invite les gens d'être curieux, de sentir curieux, de tester. Et j'ai envie de dire presque, j'ai envie de dire que l'hypnose, c'est comme l'homéopathie en fait. Si ça ne vous fait pas de bien, ça ne vous fera pas de mal. C'est-à-dire qu'au pire, vous allez sortir de votre séance, si vraiment votre inconscient n'a rien voulu savoir, ça peut arriver aussi, qu'on ne soit pas prêt. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent, qu'elles pensent être prêtes, mais qu'elles ne le sont pas. Et si vous voulez, l'inconscient, on ne peut pas le duper. Et même quand elles viennent, ça va se ressentir au niveau de la séance.
Un blocage qui se crée, vous le ressentez, par exemple, dans un comportement physique?
Alors, c'est pas. Donc, moi, je fais de l'humanisme, donc je travaille en symbolique. Et je vais vous donner, par exemple, l'exemple du féminin masculin. C'est deux séances, par exemple, qui se suivent. Forcément, on laisse maximum 8 jours entre, puisque quand on a fait là, on peut se sentir un peu bancal. C'est comme ça, les résultats sont réels. Et par exemple, moi j'ai une personne qui a coincé, on a terminé la semaine dernière, sur le masculin. Par exemple, le masculin, cette personne, vous allez chercher votre masculin intérieur blessé. Donc quand la personne vous sort une femme, vous sort je sais pas quoi, vous dites non. Donc on est là aussi, on a un recadrage à faire en disant non, c'est pas ça. Mais là souvent c'est parce que l'inconscient, faut savoir que l'inconscient lui c'est notre protecteur, lui c'est notre survie, enfin lui il est vraiment là pour nos besoins vitaux. Et lorsque quelque chose est difficile à sortir en fait pour la personne, l'inconscient va bloquer en fait, puisque pour schématiser, même si la personne est mal avec son souci, pour lui à ce moment-là, elle est moins mal que si elle sort ce truc.
Ça agit comme un pare-feu en fait.
Voilà, c'est ça. Et c'est dans le sens que je dis parfois, il y a des personnes qui aimeraient, elles pensent qu'elles sont prêtes, mais elles ne le sont pas. À ce moment-là, on laisse passer 2-3 semaines, même un mois, et puis on y revient. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, on a d'autres protocoles. Par exemple, cette personne, j'avais envisagé ce qu'on appelle une régression. Régression hypnotique, où là, elle va vraiment aller chercher qu'est-ce qui bloque. Comme ça, consciemment, elle ne peut pas vous le dire, mais une fois en transe, elle va pouvoir aller le chercher.
Régression, c'est-à-dire dans le temps, dans l'âge?
Elle va aller chercher l'origine. Elle va régresser jusqu'à l'état de cellule. C'est ce qu'on peut trouver, par exemple, quand on fait le féminin masculin. Féminin masculin, vous allez, pareil, si je vous fais le masculin, vous devez me donner un masculin, enfin je dirais pas un féminin, en tout cas ce masculin, vous allez l'avoir à un âge, donc ça c'est la personne qui vous dit, ben voilà, c'est ça, il a tel âge, etc., ok, il est comment? Et là, elle va le faire régresser jusqu'à un moment où il n'a eu aucune blessure. Ça peut être un bébé de 3 mois, il peut avoir 1 an, il peut être fœtus dans le ventre de la mère, il peut même être cellule, j'en ai eu. Et à partir de là, donc, elle va soigner et faire grandir jusqu'à son âge du jour.
Ça veut dire que, de toute façon, là, on ne peut pas tricher, entre guillemets, sans le vouloir. On arrive à remonter à la source, à trouver pile la chose, le moment qui fait qu'on a des blocages dans certaines relations. Et c'est à 100%, on ne se trompe pas. Enfin, le patient-client ne se trompe pas, en fait.
Non, il ne peut pas se tromper, parce que c'est lui qui fait. Il travaille en pleine conscience, hein, faut pas l'oublier. Donc, on est en humaniste, il est en pleine conscience. Donc, on échange, on discute. La personne vous exprime même ses ressentis. Quand elle tombe, par exemple, sur un monstre ou quelque chose de moche, machin, elle vous le dit, elle vous le décrit. Donc, c'est ça. Et donc, là, on a notre jargon. OK, vous faites quoi? Comment? Je ne sais pas si elle vous dit, par exemple, je détruis. OK, comment? C'est là où je dis, par rapport aux autres formes d'hypnose, on ne fait pas de suggestions. Il n'y a pas de suggestions. C'est vous. Et c'est la personne qui va choisir la façon, le matériel avec lequel elle va détruire, enfin, faire disparaître le symbole.
D'accord. Donc, sa réponse, claire et nette.
C'est elle qui se l'applique. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de dire, ça marche vraiment mieux, puisque c'est elle qui fait. Et tout ce qu'on fait, on le vit, en fait. On vit les choses en auditif, visuel, sensation. La personne, elle vit vraiment. Donc, il y a aussi forcément plein de larmes. Donc, voilà, l'avantage avec l'hypnose humaniste, c'est ça. C'est être en pleine conscience. C'est la personne qui fait en toute liberté. Si, par exemple, la personne ne veut pas faire, elle ne fait pas. Et parfois même, les personnes sortent de transe. Ben, elle sort. C'est parce que c'était trop dur, parce que forcément, ça va cheminer. C'est-à-dire que même s'il y a eu une demi-heure, un quart d'heure, le peu qu'il y a eu, les peu d'infos auxquelles la personne a eu accès, de toute façon, ça va cheminer, forcément.
On peut consulter un hypnothérapeute plusieurs fois dans l'existence. Vous avez déjà eu ce cas de figure de clients patients qui sont revenus après de nombreuses années, par exemple?
Alors ici, non, hein, puisque donc moi je suis installée donc depuis récemment. Moi, ce que je suggère aux personnes, enfin ce que je leur propose, c'est de pouvoir, si on sent qu'il y a quelque chose, de ne pas attendre. C'est toujours pareil, c'est de ne pas attendre. Après, c'est pour ça, effectivement, les enfants me passionnent. Et non, mais je prendrai quand même des adultes. Et c'est pour ça que je dis idéalement, là, même pour les enfants, c'est au plus on est jeune et mieux c'est. Et du coup, je trouve comme ça, on grandit mieux avec le moins de blessures possible. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive à un certain âge, forcément, pendant 40 ans, on a eu un fonctionnement, des schémas, on a verrouillé des choses, etc. On est d'accord que là, parfois, il faut y revenir à plusieurs fois, comme quand on fait, par exemple, l'enfant intérieur blessé ou le critique. Ben, parce qu'on l'a fait, souvent, on a retiré la première couche, j'ai envie de dire, ou le premier masque, comme vous voulez. Et parfois, oui, il faut y revenir. Alors que, par exemple, chez les enfants, là, moi, j'ai des enfants de 8, 9, 12 ans. Sauf s'il y a un gros souci dans quelques années, et à ce moment-là, je ne sais pas, un accident, par exemple, puisqu'ils sont très jeunes. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas venir pour ce trauma-là, mais théoriquement, il devrait bien grandir.
Plus on est avancé dans l'âge, plus les serrures sont difficiles, selon les cas, à déverrouiller.
Ah ben oui, et c'est là où effectivement la motivation, une grande motivation, j'allais dire, ouais, est nécessaire. Et je vais revenir tout à l'heure à l'exemple que je disais, les personnes par exemple que j'ai en disant, oh, vous avez fait ça à un tel, oh là là, c'était 3 séances, oui. Mais parce que cette personne n'a pas grandi dans le même milieu, elle n'a pas vécu les mêmes choses, elle n'a pas encodé les choses de la même manière. Après, même les adultes, hein, vous voyez, enfin, on peut faire que 2-3 séances, mais en fait, tout dépend de ce qu'on a vécu, comment on l'a vécu et comment on l'a intériorisé, comment on l'a bien rangé. Ou plutôt, notre enfant comme ça, l'a bien rangé, parce que j'ai envie de dire, en fonction s'il a rangé les choses, c'est vraiment pour schématiser, hein, en fonction qu'il ait mis les choses au premier étage ou sous-sol ou grenier. D'accord, il y a une distance où il fallait... S'il a tout mis au premier étage, ça va, hein, on va y aller. Mais si c'est dans une cave ou sous-sol, vous êtes d'accord que là, il faut descendre.
Il y a plusieurs niveaux, c'est un peu comme un disque dur.
En fait, c'est exactement ça, c'est un disque dur. Ben, faut faire du nettoyage, parfois ça peut marcher du premier... Enfin, en tout cas, on fait un maximum du premier coup, et puis parfois, il faut re-nettoyer... Mais en tout cas, ce qu'il faut que les personnes sachent, c'est que déjà quand on a fait cette démarche, déjà quand on a fait, j'ai envie de dire, le plus gros, la personne est déjà plus allégée, la personne est déjà mieux, et elle va être en plus plus sensible, plus attentive à elle-même. Puisque comme on travaille en pleine connexion, en état augmenté de conscience. Du coup, la personne prend conscience après des choses. Et elle va d'elle-même, en fait, du coup, j'ai envie de dire, évoluer d'une autre manière, avec, en pratiquant d'autres choses. Par exemple, je ne sais pas, prendre soin d'elle. Déjà, je ne sais pas, réflexo, des massages. Vous voyez, les gens, quand ils arrivent, alors ça, c'est des choses... En fait, la personne va changer comme ça, va s'ouvrir, en fait. On s'ouvre.
Bon, vous parliez des enfants. C'est, donc, c'est des séances forcément différentes et un autre exercice qu'avec les adultes. Comment faites-vous pour, par exemple, quand un enfant est un peu turbulent, comment ça se passe pour le stabiliser? Parce que je suppose qu'il faut qu'il soit dans un état un peu détendu, serein, posé. Est-ce que vous avez des objets un peu ludiques pour attirer son attention ou pas du tout? Vous travaillez avec aucun artifice de ce côté-ci avec les enfants?
Pas du tout, aucun artifice. Les enfants, la particularité, donc je pose, j'adapte mon questionnaire, mon anamnèse, forcément, puisque j'ai besoin de savoir. Donc il y a un questionnaire pour eux, je commence par eux. Je leur demande aussi s'ils sont d'accord d'être là.
Et c'est à partir de, c'est très important, à partir de quel âge à peu près?
Honnêtement, on peut le faire à partir de 2 ans. Même bébé, mais là, il faut que je fasse mon module plus spécifique. Voilà. Moi, je les prends à partir de 7 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais il n'y a aucun artifice. J'ai un questionnaire que je leur pose. Les premières questions, c'est est-ce que tu sais pourquoi tu es là et est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse quelque chose ensemble? Ça, c'est très important. Donc, forcément, ils sont avec les parents. Et j'ai aussi le questionnaire pour les parents. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte par rapport aux parents. Souvent, les enfants ont ce genre de comportement. J'ai envie de dire, il y a forcément une raison. Les enfants sont le reflet de ce qui se passe à la maison aussi. Hein. Et souvent, c'est leur façon à eux, comment dire, de tirer l'alarme, j'ai envie de dire. Les enfants, c'est des éponges. Et en tant qu'adulte, hein, on a beau parfois cacher les choses, et les enfants sentent. Et selon les âges, ben, ils l'expriment comme ils peuvent. Ils peuvent l'exprimer, par exemple, par un comportement un peu turbulent, un peu... un parent qui n'est pas bien, un parent qui est malade, par exemple, et qu'on ne dit pas tout, l'enfant le sent, il faut le savoir. Et à ce moment-là, donc, on discute, d'où le questionnaire pour les parents. Ça va de la grossesse, l'accouchement, enfin, tout. Voilà comment les choses se sont passées. Parce qu'il y a des choses qui peuvent avoir, pour les parents comme ça, non. Mais pour l'enfant, oui, il y a eu un souci, un accident, il y a eu quelque chose. Et lui, il l'a imprégné, comme l'idée d'abandon. J'ai un petit en disant, mais vous l'avez peut-être laissé un jour, mais même chez des grands-parents et des gens bien, mais comment lui a vécu ça? Vous voyez, rien que ça, par exemple. L'enfant peut avoir ressenti un abandon, alors que pour les parents, ce n'était pas du tout... Donc voilà, donc là, effectivement, pour les enfants, en général, là, c'est quoi? C'est 2-3 séances. Voilà, parce que c'est tout neuf et que les traumas ne sont pas... En tout cas, voilà, je n'ai pas rencontré non plus d'enfants qui avaient des gros traumas. Là, c'est plutôt des petites crises d'angoisse, des peurs, problèmes de sommeil, l'école. L'école aussi, ça fait partie de leur vie. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on commence à rentrer et à encoder des choses. Voilà. Et donc là, par contre, quand il y a des enfants jeunes, je demande aux parents, puisqu'on le sent dans l'anamnèse, que le parent, bon, j'ai rien, au moins un, qui travaille en parallèle. Ça, pour moi, c'est presque obligatoire, puisque on ne peut pas travailler, comme, j'ai envie de dire, comme chez un couple. Pareil, je travaille avec les couples. Quand un couple vient, forcément, il faut qu'il ait le même point d'intérêt. C'est-à-dire dans un but commun, c'est pour que ça aille mieux, parce que voilà, ça ne va pas, mais on a envie de continuer notre chemin. S'ils n'en ont pas envie, à ce moment-là, ce n'est plus une thérapie de couple, on prend les personnes. Avec les enfants, j'allais dire, c'est pareil. Si on envoie l'enfant, il ne s'agit pas d'envoyer l'enfant en disant « ouais, il y en a marre, il saute de partout, il tape tout le monde ». Oui, mais vous êtes comment? Donc en fait, il faut aussi que le parent soit bien, lui, pour que l'enfant aille mieux.
On peut régler, vous parliez de couple aussi, donc notre cas de figure, vous recevez des couples, quand ils sont dans la même osmose, à la même connexion, on peut venir à bout d'un problème, mais s'il y a un blocage, vous pouvez faire des séances individuelles en fait, et est-ce que ça peut régler ce problème en les prenant individuellement?
Alors, pour les couples, donc, ce qu'on vérifie, la première chose, c'est effectivement qu'ils viennent pour ce travail commun, pour ce but commun. Ensuite, forcément, il y a deux, trois séances, puisqu'on va revenir à ce féminin masculin et l'enfant intérieur. Donc, pour chacun. Et c'est tout. Et donc, déjà, en fait, une fois qu'on a débloqué ça, le reste va se faire. Bon, on donne un emploi du temps. Enfin, voilà, on a tout un protocole à leur donner. Parce que le but aussi, avec l'hypnose, la thérapie brève, c'est que les gens soient autonomes. Ça, c'est très important. Avec l'hypnose, on ne garde pas quelqu'un pendant 1 an, 2 ans. Enfin, moi, non. Là, le maximum, c'est 6 séances. Et déjà, alors après, ça dépend ce qu'on a comme trauma. 6 séances, quand vous avez, par exemple, je ne sais pas, des personnes qui ont vécu des drames, des abandons, je vais dire, mais vraiment des choses, des viols, forcément, ça, on ne peut pas le régler en 2 séances. Quoi. Je ne veux pas... non. Là, il faut que ça remonte et il faut vraiment aller soigner ces blessures profondes, en fait. Hein, une fois qu'on a soigné ça, donc là, effectivement, voilà, jusqu'à 6 séances. Au-delà, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, c'est orienté.
Vous voulez rajouter d'autres éléments pour compléter ou on a fait à peu près le tour? En tout cas, c'est un peu plus clair.
Bon, je crois que j'ai fait le tour. J'ai dit l'essentiel. C'est, si j'ai qu'un mot, c'est sentez-vous libre d'être curieux et d'essayer. L'hypnose humaniste, c'est la reconnexion à soi-même. C'est la découverte de soi-même, c'est le travail en pleine conscience, en état augmenté de conscience.
Vous êtes curieux d'ailleurs, on peut vous voir prochainement, Fatima. C'est dans quel lieu exactement?
Alors ça se passe, donc c'est le salon bien-être et développement personnel qui va se dérouler donc ce dimanche 7 mai, donc à l'usine Badin à Gap, hein, c'est après la DDT je crois, derrière la gare, au-dessus de la gare.
Exactement, l'usine Badin, que nous connaissons bien. Et puis, vous avez d'ailleurs déménagé entre la première interview, je crois. Donc, si vous voulez bien nous donner votre nouvelle adresse où vous pouvez accueillir nos auditeurs, pourquoi pas, qui sont intéressés et qui veulent faire un petit nettoyage de disque dur.
C'est ça, avec plaisir. Je suis donc rue d'Apon, à l'immeuble Chanteclair, au 2e étage. C'est 7B. Rue d'Abon, au 2e étage. Bon, on n'a pas d'ascenseur. Alors, ce que j'ai peut-être pas dit, on n'a pas d'ascenseur. Et moi, donc, je propose de me déplacer à domicile, mais pour les personnes à mobilité réduite uniquement.
Le site internet, c'est fatimabenfria.org. Et là, vous avez un peu une tablature un peu sur ce que sont les 4 type d'hypnose et puis surtout l'hypnose humaniste. Ah oui, d'ailleurs, à propos de l'hypnose humaniste, vous avez passé une sorte de diplôme, entre guillemets, hein, c'est ça? Vous avez validé, donc vous êtes une jeune diplômée.
C'est ça, c'est donc la certification humaniste. Puis hier.
Mais voilà, félicitations et on se retrouvera pour un prochain épisode, Fatima, avec plaisir.
Avec plaisir, merci de votre accueil.